Vous écoutez, on lit pour vous.
Refroidir sa maison sans climatiseur, mythe et réalité, un texte de Florence Dancause, paru le 8 juillet 2024 dans la presse. Vous faites partie des gens qui n'ont pas de climatiseur? Vous avez sûrement développé des trucs pour refroidir votre maison lorsque le mercure grimpe. Mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Voici ce qu'il faut faire et ne pas faire pour rafraîchir sa maison cet été. Ouvrir les fenêtres la nuit et les fermer le jour. Même en période de canicule, on ouvre la nuit et on ferme le jour. Il y a toujours un abaissement de température la nuit, explique Emmanuel Cosgrove, directeur général d'Éco-Habitation. Et durant la journée, on ferme aussi les rideaux ou les stores. On veut aérer plus tôt en soirée? On regarde la différence entre la température intérieure et la température extérieure, et même l'humidité, conseille Johanna Ekem, directrice générale, infrastructure résiliente au climat, du Centre Intact d'adaptation au climat. Si on a une maison à étages, on profite de l'effet de cheminée. On ouvre une fenêtre au rez-de-chaussée et une fenêtre à l'étage, explique Emmanuel Cosgrove. Ça doit communiquer sans porte fermée et il y aura un effet d'aspiration. Si notre chez-soi n'a qu'un niveau, on essaie de créer un courant d'air en ouvrant des fenêtres sur différents côtés. Mais attention, on ne devrait pas ouvrir les fenêtres du sous-sol. L'humidité risque d'entrer et de se refroidir sur les murs, ce qui peut créer de la moisissure, met en garde le directeur général d'Éco-Habitation. Utilisez un ventilateur. Une solution simple et bon marché, c'est le ventilateur, soit au plafond ou sur pied, indique Emmanuel Cosgrove. Le ventilateur ne refroidit pas nécessairement l'intérieur, mais donne plutôt une sensation de fraîcheur. Si on a un ventilateur de plafond, on s'assure qu'il tourne dans le bon sens. L'air doit être poussé vers le sol. Il y a un bémol, par contre. Au-dessus de 33 degrés, ça n'a pas un bon effet, comme l'air est tellement chaud, tempère Johanna Ekem. La ventilation de l'air chaud peut entraver l'évaporation de la sueur, ce qu'il faut éviter. Un bol de glace ou un drap humide. Vous avez peut-être vu cette astuce en ligne, mettre un bol de glace devant un ventilateur ou un drap humide devant une fenêtre pour obtenir une brise plus froide. À condition que le facteur humidex ne soit pas déjà à son comble, ce truc peut fonctionner. L'humidité, avec un courant d'air frais, peut donner une sensation de plus grande fraîcheur, dit Emmanuel Cosgrove. Le principe lui fait d'ailleurs penser au badgir des tours attrape-vent de l'architecture perse. Ces tours sont souvent couplées à un bassin d'eau à leur base, ce qui permet un refroidissement supplémentaire des intérieurs. Planter du verre. Les arbres qui empêchent le soleil de taper directement sur les fenêtres ont un grand impact, souligne Johanna Ekem. Même sur les balcons, on peut créer plus d'ombrage avec des plantes, dit-elle. On peut aussi se tourner vers les arbustes et les plantes grimpantes, qui mettent moins de temps à prendre de l'expansion. C'est sûr que la brique va nous irradier de la chaleur toute la nuit, mais si on met des plantes comme des lierres ou de la vigne, la température va être abaissée par l'évapotranspiration des plantes, illustre Emmanuel Cosgrove. Les plantes intérieures peuvent-elles avoir un effet sur la chaleur? Si elles agissent comme des stores et empêchent le soleil de taper au sol grâce à leur feuillage, elles peuvent aider à contrôler la température. Mais elles peuvent aussi générer de l'humidité supplémentaire et contribuer à notre sensation de surchauffe, soulève le directeur d'Éco-Habitation. Pour aller plus loin, on devrait prévoir la gestion de la chaleur dans nos maisons estiment Johanna et Kem, notamment si on songe à faire des rénovations. Ça peut passer, par exemple, par des dispositifs d'ombrage, volets, auvent, stores, par une meilleure isolation, ou bien par des fenêtres qui réduisent l'absorption de la chaleur. En période de canicule, il y a beaucoup d'habitudes qu'on peut adopter pour tenter de se passer d'un climatiseur. Mais on n'est plus d'avis que le climatiseur est un luxe non nécessaire, affirme pour sa part Emmanuel Cosgrove, surtout en milieu urbain, quand on est pris avec des îlots de chaleur. Si on doit choisir parmi les climatiseurs, le directeur d'éco-habitation privilégie l'achat d'une thermopompe. Ça compense de loin sa consommation d'énergie l'été par des économies de chauffage l'hiver, note-t-il. C'était « Refroidir sa maison sans climatiseur, mythe et réalité », un texte de Florence Dancause, paru le 8 juillet 2024 dans La Presse.
Le mur comme meilleur ami. Un texte de Nicolas Richard paru le 25 juin 2024 dans La Presse. L'année scolaire vient tout juste de se terminer. Or, à l'école Pierre de Coubertin dans Montréal-Nord, on pense déjà à l'avenir. En cette dernière semaine de cours, les écoliers attendaient impatiemment l'arrivée des vacances. La chaleur accablante leur donnait tout de même un avant-goût de l'été à venir. Si certaines institutions scolaires organisent des spectacles de musique ou des olympiades pour récompenser le travail de leurs élèves, l'école Pierre de Coubertin avait un cadeau un peu plus original à offrir à ses étudiants d'âge primaire. Le mercredi 26 juin 2024, en association avec Tennis Montréal, la directrice de l'école, Nadine Lalancette, a inauguré une murale à l'effigie de la joueuse de tennis Leila Annie Fernandez. Murale sur laquelle les élèves et les résidents du quartier pourront s'initier eux aussi au sport pratiqué par la Québécoise en frappant la balle contre le mur. On est une école à volet sportif, donc on développe des athlètes, on développe des enfants, et ce, dans différentes branches, explique au téléphone Mme Lalancette quelques minutes avant la cérémonie. Et pour le tennis, on n'avait pas d'installation, et c'était une façon tellement originale et simple d'ajouter du tennis pour nos élèves. Cette murale devient la troisième dévoilée par Tennis Montréal, après les deux premières révélées au stade IGA au début du mois de mai. Le meilleur partenaire. Cette initiative, élaborée par Tennis Montréal, s'inscrit dans la mission de l'organisme de vouloir rendre le tennis plus accessible. Il n'y a pas de façon plus simple que de claquer la balle sur le mur. Tous les grands champions ont commencé comme ça. C'est vraiment la manière la plus accessible de découvrir le tennis, explique le directeur général Hugues Léger. À son avis, le mur est le partenaire qui ne rate jamais. C'est la manière la plus démocratique pour commencer à jouer au tennis. Ce projet a été rendu possible grâce au programme de soutien aux associations sportives régionales de la Ville de Montréal. Le projet des murales a été déposé à l'automne 2023. Tennis Montréal aura donc l'occasion de créer 12 murales à travers Montréal. La quatrième est déjà prévue au Collège Reine-Marie, dans le quartier Saint-Michel. L'annonce de la cinquième murale sera faite plus tard cet été et l'entièreté des œuvres devrait être dévoilée d'ici 2026. L'inspiration. Avec ce projet, l'ambition de Tennis Montréal réside dans la volonté de présenter aux enfants ou aux initiés des exemples de réussite. Actuellement, deux modèles de murales existent, une avec Fernandez et une autre avec Félix Auger-Aliassime. Au moment de choisir, les dirigeants de l'école Pierre de Coubertin ont été unanimes, précise Mme Lalancette. Tout le monde voulait Leila. D'abord, elle est un modèle féminin, donc ça, c'était important. C'est aussi une personne issue de l'immigration, comme on est en plein cœur de Montréal-Nord. De prime abord, la directrice de l'école s'est dite séduite par cette idée de montrer l'image de personnes qui ont réussi à partir de rien. Pour Mme Lalancette, Fernandez et Auger Aliassime montrent un modèle de réussite accessible. Un mariage entre l'art et le sport. Ces murales de Fernandez et d'Auger Aliassime n'ont pas encore le prestige de celles illustrant Leonard Cohen, rue Crescent, ou de celles honorant Beau-Dommage entre les rues Saint-Denis et Saint-Vallier, certes. Néanmoins, Tennis Montréal voulait profiter de la richesse culturelle et artistique de la métropole pour embellir certaines écoles en plus de permettre à de jeunes sportifs de s'initier au tennis. Montréal est une ville d'art urbain, c'est bien connu, lance M. Léger. Alors, je pense que de marier l'art urbain qui est dans l'ADN de Montréal et le tennis qui est un sport adoré par les Montréalais est une idée intéressante. Dans sa perspective, le travail de l'artiste Jenna Schwartz représente un espace de pratique et un espace d'inspiration. En d'autres mots, c'est une œuvre d'art, cette murale. C'était « Le mur comme meilleur ami », un texte de Nicolas Richard, paru le 25 juin 2024 dans La Presse.
Impact des lois 141 et 16 sur la copropriété divise. Un texte de Marie-Ève Schaeffer, paru le 25 juin 2024 dans Protégez-vous. Vous habitez une copropriété divise ou vous prévoyez en acquérir une? Les projets de loi 141 et 16, adoptés respectivement en 2018 et 2019, ont entre autres resserré les règles de gestion de ce type d'habitation. Les syndicats de copropriété sont maintenant tenus de souscrire des assurances et de disposer d'un fonds d'auto-assurance. Ils doivent aussi se préparer à produire un carnet d'entretien et à demander l'avis d'un expert sur leur fonds de prévoyance. Micheline adore la vie en condo. Elle lui permet de voyager à sa guise, sans devoir demander à ses proches de venir déneiger l'hiver ou de tondre la pelouse l'été. Mais les frais de condo augmentent chaque année, constate-t-elle. De 2020 à 2024, sa contribution aux charges communes de l'immeuble de 100 logements où elle vit est en effet passée de 455 $ à 738 $ par mois. Et ça ne tient pas compte des cotisations spéciales et de mon assurance habitation, précise-t-elle. Depuis 2018, une série de changements législatifs adoptés par le gouvernement du Québec ont eu pour effet de resserrer la gestion des copropriétés divises. Le syndicat de copropriété a désormais davantage d'obligations légales, ce qui occasionne un certain effort financier de la part des copropriétaires. On a imposé ces changements pour protéger les copropriétaires contre des conseils d'administration qui ne voudraient pas gérer la copropriété comme il le faut, explique Maître Yves Papineau, avocat, médiateur et associé du cabinet LJT Avocat. Généralement, les nouvelles dispositions ont du gros bon sens. De fait, l'administration d'une copropriété est loin d'être un long fleuve tranquille. Selon des experts interrogés, les disputes sont fréquentes, notamment à propos des assurances et des charges communes. Les tribunaux sont parfois appelés à trancher les conflits. Voici comment la gestion des copropriétés a évolué ces dernières années, ainsi qu'un aperçu des répercussions de ces changements sur les copropriétaires. Lexique. Syndicat de copropriété. Personne morale formée de l'ensemble des copropriétaires qui vivent dans un immeuble en copropriété. Conseil d'administration. Les administrateurs élus par l'ensemble des copropriétaires à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle siègent au conseil d'administration qui, lui, gère le syndicat de copropriété. Gestionnaire de copropriété. C'est une entreprise embauchée par le syndicat de copropriété pour gérer les activités quotidiennes de la copropriété. Gestion du budget, supervision des travaux, perception des charges communes, etc. Déclaration de copropriété. Il s'agit en quelque sorte du contrat notarié qui lie les copropriétaires. Ce document comprend l'acte constitutif de copropriété, le règlement de l'immeuble et l'état descriptif des fractions. Registre de copropriété. Il contient la déclaration de copropriété, les contrats conclus par les administrateurs, une copie du plan cadastral, le certificat de localisation de l'immeuble et les procès-verbaux des assemblées générales. Il inclut aussi le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance, si le syndicat de copropriété a déjà fait ses démarches. Des protections obligatoires. Autant les copropriétaires que les syndicats de copropriété sont tenus de souscrire certaines assurances. Plusieurs les détenaient déjà avant que le Code civil du Québec ne les exige, mais comme certaines personnes ont négligé de les contracter, elles sont devenues pour la plupart obligatoires après l'adoption du projet de loi 141 en 2018. Responsabilité civile. Les copropriétaires et les syndicats de copropriété doivent chacun détenir une assurance en matière de responsabilité civile. Celle des copropriétaires s'avère utile si ceux-ci sont responsables de dommages moraux, matériels et ou corporels. Cette protection s'élève à au moins 1 million de dollars s'ils habitent dans un immeuble de moins de 13 logements, ou à au moins 2 millions de dollars si la copropriété comprend 13 logements et plus. Les syndicats de copropriété sont aussi contraints de souscrire une telle assurance. Depuis 2018, le Code civil du Québec précise que cette protection doit couvrir, entre autres, les administrateurs ainsi que le président et le secrétaire d'assemblée en cas de faute, d'erreur et de négligence. Les administrateurs du syndicat de copropriété sont généralement des bénévoles. Ce n'est pas à eux de payer pour cette assurance, dit Maître Yves Papineau. La très grande majorité des polices d'assurance des copropriétés l'incluaient, mais des administrateurs la coupaient pour économiser. Dommage. Déjà, avant 2018, le syndicat de copropriété était obligé de contracter une assurance dommage couvrant tout l'immeuble. Les parties communes comme les parties privatives. Les risques couverts ont ensuite été détaillés. Ils englobent notamment le vol, les dégâts d'eau, les incendies et la foudre. En tant que copropriétaire, vous avez intérêt à obtenir de votre côté une protection pour les améliorations qui ont été apportées dans votre condo ainsi que pour vos biens. Pour déterminer ce qui est assuré par les copropriétaires et ce qui l'est par le syndicat de copropriété, ce dernier doit fournir une description des parties privatives suffisamment précise pour que les améliorations apportées soient identifiables, stipule le Code civil du Québec. S'il ne le fait pas, il est alors responsable de tout l'immeuble. Valeur de reconstruction. En vertu du Code civil du Québec, une assurance qui couvre la valeur de reconstruction de l'immeuble en cas de perte totale est également requise pour le syndicat de copropriété. Ce dernier mandate un membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec tous les 5 ans pour estimer la valeur de reconstruction du bâtiment, ce qui permet à l'assureur de mettre à jour la police d'assurance. Une telle évaluation coûte de 800 $ à quelques milliers de dollars. La loi a en fait clarifié une pratique de l'industrie déjà bien établie, fait valoir Élise Beauchesne, présidente directrice générale de Solutions Condo et présidente de l'Association québécoise des gestionnaires de copropriété. Le fonds d'auto-assurance. Quand un sinistre survient, le syndicat de copropriété paie la franchise de l'assurance ou les travaux de réparation si leur coût est inférieur. Pour être en mesure d'assumer ces frais, la copropriété doit disposer depuis 2022 d'un fonds d'auto-assurance qui est financé à partir des charges communes versées par les copropriétaires. ce fonds contient au moins l'équivalent de la franchise la plus élevée parmi les couvertures que souscrit le syndicat de copropriété, mis à part celle pour un tremblement de terre ou une inondation, jusqu'à concurrence de 100 000 $. Avant, les conseils d'administration des copropriétés devaient imposer des cotisations spéciales pour payer les franchises. Ça créait des problèmes, souligne Vincent Gaudreau, président de Fort Assurance et Avantages sociaux. À supposer que le fonds d'auto-assurance soit dégarni, les copropriétaires doivent le renflouer. Le plus souvent, les décisions à ce sujet sont prises à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle, mais une cotisation spéciale peut être imposée en cours d'année. Vous écoutez « Impact des lois 141 et 16 sur la copropriété divise », un texte de Marie-Ève Schaffer, paru le 25 juin 2024 dans « Protégez-vous ». D'autres obligations légales à venir. Le gouvernement du Québec doit adopter cet automne un projet de règlement qui détaillera les prochaines obligations légales que devront remplir les syndicats de copropriété, selon ce qu'indique la Société d'habitation du Québec. Voici en quoi elle consiste. Carnet d'entretien et fonds de prévoyance. Le projet de loi 16, sanctionné en 2019, annonçait que les syndicats de copropriété devront produire un carnet d'entretien de leur immeuble pour déterminer les travaux majeurs à réaliser dans les prochaines années. Ils seront aussi contraints de faire évaluer leurs fonds de prévoyance par un expert. A priori, la loi exigeait que l'étude du fonds de prévoyance soit effectuée tous les 5 ans, mais le projet de loi 31, adopté en février 2024, a précisé que la fréquence dépendra des spécificités de l'immeuble. Le règlement à venir apportera sans doute des éclaircissements à ce sujet et spécifiera quels sont les professionnels qui pourront fournir cette expertise. Beaucoup de syndicats de copropriété ont déjà implanté ces changements, affirme Casey Ozoraï, cofondatrice et vice-présidente de Régisco Immobilier, une entreprise qui épaule les syndicats de copropriété grâce à une plateforme numérique. Le plus rapidement ils mettent en place le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance, le plus rapidement ils peuvent cotiser à la hauteur des besoins, poursuit-elle. L'état de l'immeuble. Les syndicats de copropriété doivent également se préparer à fournir une attestation sur l'état de l'immeuble à des acheteurs potentiels. Ils auront à présenter ce document dans les 15 jours suivant leur demande. Quelles informations cette attestation devra-t-elle contenir? Qui sera responsable de la produire? Un membre d'un ordre professionnel devra-t-il la valider? Voilà autant de questions qui trouveront des réponses dans le règlement qui devrait être adopté cet automne. Et si un syndicat ne remplit pas ses obligations? D'une part, les administrateurs de la copropriété risquent d'avoir de la difficulté à trouver un assureur qui posera des questions à ce sujet. D'autre part, un copropriétaire pourrait intenter une poursuite contre son syndicat de copropriété. Aucune sanction ou amende n'est cependant imposée à une copropriété dont le fonctionnement n'est pas conforme au Code civil du Québec, une disposition fortement critiquée. La plupart de ces modifications législatives relèvent des bonnes pratiques, selon les experts interrogés. Les critiques sont toutefois nombreuses concernant l'article 1074.2 du Code civil du Québec, qui est en vigueur depuis 2018. Cette disposition mentionne que le syndicat de copropriété doit payer la franchise de son assurance et les travaux de réparation à la suite d'un sinistre survenu dans l'un des condos. Il peut recouvrer les sommes engagées s'il prouve que le copropriétaire a commis une faute, si la personne en question n'a pas déneigé son balcon et que ce dernier s'est effondré sous le poids de la neige, par exemple. L'assurance du copropriétaire assume alors les frais, moins la franchise habituelle. Il en va de même si les biens et les personnes, sous la garde du copropriétaire, ont causé un sinistre. À supposer qu'un bien en soit à l'origine, pensons ici à un appareil de climatisation, c'est le copropriétaire qui doit prouver qu'il n'a pas été négligent. Souvent, les tribunaux l'oublient, fait remarquer Maître Yves Papineau. Le fardeau de la preuve revient donc au syndicat. Dans une cause entendue en 2024 devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, le syndicat d'une copropriété montréalaise réclamait plus de 11 000 $ à une copropriétaire à la suite d'un dégât d'eau. Le mécanisme d'évacuation de la toilette était apparemment la cause du dommage, mais le syndicat de copropriété n'a présenté aucune preuve pour en démontrer la défectuosité. La copropriétaire a expliqué au tribunal qu'elle ne pouvait pas soupçonner l'existence du bris. Le juge a ainsi rejeté la réclamation du syndicat qui a dû éponger la facture. C'est anormal que la charge de la preuve repose sur les épaules du syndicat, soutient Cécile Pilarski, directrice générale du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Vincent Gaudreau indique pour sa part que les assureurs des copropriétaires veulent établir le niveau de responsabilité de leurs clients avant de fournir une indemnisation. C'est du cas par cas, résume-t-il. Les prix des assurances en hausse. En parallèle, les syndicats de copropriété ont vu le prix de leurs assurances augmenter. Celui-ci a en effet bondi de 10 à 15 % par année depuis 2018, selon Vincent Gaudreau, qui explique ces hausses notamment par l'accroissement des coûts de construction et les difficultés à assurer des copropriétés. Les copropriétés présentaient des réclamations pour de petits montants de 1 000 $, 1 500 $ ou 2 000 $. L'assureur se retrouvait à faire quasiment de l'entretien, relate-t-il. Ça augmentait la fréquence des réclamations et les pertes des assureurs. Les franchises ont donc explosé. À titre d'exemple, une petite copropriété pouvait avoir une franchise de 1 000 $ pour un dégât d'eau avant les changements législatifs. Le montant d'une telle franchise atteint aujourd'hui au moins 5 000 $. Quand les dommages se multiplient, le fonds d'auto-assurance de la copropriété se vide rapidement. C'est un puits sans fond, illustre Élise Beauchesne. Elle évoque par exemple un immeuble dans lequel plus d'une cinquantaine de sinistres sont survenus au cours des deux dernières années. Les experts du milieu de la copropriété s'entendent pour dire que d'autres changements législatifs doivent être adoptés. Le cabinet de la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, se dit au fait de la situation, mentionnant dans un échange de courriels qu'il demeure à l'écoute pour apporter des modifications en temps et lieu si nécessaire. C'était Impact des lois 141 et 16 sur la copropriété divise, un texte de Marie-Ève Schaffer, paru le 25 juin 2024 dans Protégez-vous.